Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h, passé de... Tac, tac, tac. Passé de... Bah, je vois plus l'horloge. Ah, bah oui. Passé de quelques minutes. Hop. Hop, hop, hop. Passé de 5 minutes, voilà. Depuis, vous avez le temps de lire l'heure chez vous. L'heure du Canu Info commence. Et ce soir, on va commencer par quelques brèves. Ensuite, on aura un bon pavé qui parlera de Gaza. Ensuite, on aura un reportage du Camion Info qui nous parle d'une expulsion ou tentative d'expulsion, je sais plus bien, qui s'est passée en Grèce. Et ensuite, on finira avec des nouvelles du Kurdistan. Et on va commencer avec quelques brèves. Et alors voilà, c'est pourquoi moi j'aurai le rôle de faire la blague du Canu Info.
Mais attends, avant ta brève, est-ce qu'on n'annoncerait pas, pour les gens qui veulent, le rassemblement à 20h au terreau?
Ah bah si, tout à fait. Et ben vas-y, je t'en prie, annonce-le.
Et bien alors du coup, ce soir à 20h au terreau, il y a une veillée pour les victimes palestiniennes. Et la consigne, c'est venez avec votre envie, votre peine et vos bougies.
Et ben du coup, tu me changes mon ordre de brève, mais c'est pas grave du tout, parce que je suis quelqu'un de très adaptable. Et ça va me faire bondir sur la décision du référé qui a été posé devant le Conseil d'État, qui a déclaré que, alors c'était à propos du télégramme qu'avait envoyé Darmanin, au fait de demander aux préfectures de dire, en fait, vous interdisez toutes les manifs pro-palestiniennes, quel que soit le mot d'ordre, tout, vous interdisez tout. Ce qui est à peu près unique, je vais peut-être m'avancer en disant ça, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Dans la plupart des pays européens, par exemple, les gens manifestent massivement leur soutien aux Palestiniens et Palestiniennes. Bon, en tout cas, le juge des référés a estimé que le télégramme adressé au préfet, je les cite, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation et à la liberté d'expression. Bah, c'est vrai qu'on est quand même maintenant habitué, alors peut-être que le Conseil d'État aussi peut-être maintenant s'habitue à ces interdictions systématiques. En revanche, il estime qu'aucune de ces interdictions ne peut être fondée uniquement sur ce télégramme. Alors c'est vrai que je ne sais pas si hiérarchiquement le ministère de l'Intérieur les préfectures dépendent hiérarchiquement du ministère de l'Intérieur. En tout cas on imagine quand même mal les préfectures faire sédition avec le ministre de l'Intérieur, qui est plutôt en vogue en ce moment quand même au gouvernement. On finit ces brèves par une petite blague, et c'est une blague d'erreur d'aiguillage. Hein. Et c'est un TGV reliant Bruxelles à Strasbourg qui a eu une petite erreur d'aiguillage. Ce train qui, comme à son habitude, transporte des eurodéputés pour aller parlementer d'une ville à une autre, il a été détourné par erreur. À Euro Disney. Donc voilà, c'est-à-dire que les gens, au lieu de filer directement à Strasbourg ou à Bruxelles, je sais pas dans quel sens ils allaient, bon en fait l'aiguilleur s'est trompé et a balancé tout le monde à Euro Disney. De là à penser hein, que cette erreur d'appréciation de l'agent aiguilleur qui aurait peut-être vu dans ses usagers particuliers des personnages de fiction, on ne sait pas, et l'histoire ne raconte pas non plus si certaines personnes, en tout cas certains eurodéputés, en auraient profité pour descendre malgré tout et sécher une session parlementaire. Et maintenant que les notes des infos sur Gaza sont imprimées, et que la bataille de l'imprimante a perdu.
L'imprimante a été gagnée. Merci aux camarades de Mayday qui m'ont filé le coup de main de dernière seconde. Alors, le président américain Joe Biden a affirmé tout à l'heure que des données montrées par son département de la défense au sujet du tir sur l'enceinte de l'hôpital Al-Ahli à Gaza, que ces données disculpaient Israël des accusations du Hamas. Alors pour celles et ceux qui n'auraient eu accès à aucune information aujourd'hui, la nouvelle de la nuit, c'est qu'un hôpital gazaoui a été bombardé. Il y a eu au moins 471 morts, selon un comptage qui remonte déjà à quelques heures au moment où je vous parle. À Gaza, les hôpitaux n'ont plus d'électricité au-delà de leur groupe électrogène, plus de médicaments, pas beaucoup d'eau ni de nourriture. Ce qui est pratique avec Gaza, c'est aussi que c'est un tout petit bout de territoire entièrement entouré d'une barrière et qu'il est donc très facile de lui couper les vivres, tout en empêchant tous ses habitants et ses habitantes de sortir. Et avec ses 2 millions de personnes enfermées à l'intérieur, Israël bombarde depuis déjà le milieu de la semaine dernière de toute façon. Et dans ce contexte, eh ben, pas mal de gens s'étaient réfugiés dans les hôpitaux, en comptant que les hôpitaux ne seraient pas bombardés. Ce matin, le gouvernement israélien, donc le tir remonte en réalité à hier soir, ce matin le gouvernement israélien prétendait ne pas être à l'origine du tir. Des preuves allaient être montrées d'un instant à l'autre, des preuves qui établiraient que c'était en fait le djihad islamique, ou peut-être tout simplement le Hamas, mais sans doute plutôt le djihad islamique, qui avait détruit l'hôpital. Cet après-midi, Joe Biden, en visite en Israël, confirme qu'il aurait vu des données donc fournies par les services de renseignement américains, qu'est-ce que je dis, le département de la défense, qui confirmeraient la version de Netanyahou. C'est bien pratique. Alors, il faut quand même remarquer que ces données, ces preuves, jusqu'ici, personne ne les a vues, personne d'autre que les dirigeants israéliens et américains. Alors, peut-être qu'elles existent réellement, peut-être que, comme le sous-entend Biden, il s'agit réellement d'une roquette mal maîtrisée, tirée par le Hamas ou le djihad islamique. Mais en tout cas, pour le moment, cette histoire me fait quand même furieusement penser au bombardement en Ukraine, où à chaque fois qu'un missile tombe sur un hôpital, une maternité, une école primaire ukrainienne, l'Occident entier se moque de Poutine, qui à chaque fois déclare que c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui ont tiré ce missile.
Il se moque du fait que Poutine déclare ça.
Oui, c'est ça. C'est à chaque fois Poutine dit « Ah non, mais les Ukrainiens, ils ont tiré eux-mêmes un missile pour bousiller une école, pour bousiller des petits-enfants, des vieilles dames dans un quartier résidentiel ou que sais-je. Ah, bah, c'est sûr, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui ont balancé la bombe. » Et là, bien sûr, quand les journalistes occidentaux relayent ce truc de Poutine, à chaque fois, c'est en n'envisageant pas une seconde que ça puisse être vrai, parce qu'effectivement, ça a l'air tellement con, quoi. Mais alors voilà, pour le moment, en attendant que, disons, des journalistes dignes de foi aient vu ces fameuses preuves, bah Biden et Netanyahou me semblent quand même à peu près aussi crédibles que Poutine dans la circonstance.
Et que Twitter en ce moment. Pour parcourir Twitter en ce moment, c'est-à-dire que c'est un peu la cata. Je veux dire, ne tirez aucune conclusion d'un côté ou de l'autre sur ce que vous pouvez voir sur Twitter, parce que c'est un peu la cata, quoi.
Ah, moi, j'ai même pas fait ça. J'ai même pas essayé.
Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça sert à rien. T'as tellement...
Ouais, c'est ça. Quoi qu'il en soit, et d'où que vienne le missile qui a frappé cet hôpital, c'est bien Israël qui bombarde depuis une semaine la bande de Gaza. Après avoir intimé à ses habitants et habitantes l'ordre de partir, d'aller tiens, vers le sud de leur minuscule territoire, et comme il n'y a de toute façon pas de place, comme par ailleurs il est matériellement impossible de faire bouger aussi vite autant de monde, comme plein de gens ne peuvent tout simplement pas bouger, Israël, de toute façon, tue chaque jour des civils, des enfants, des n'importe qui, complètement à l'aveugle. Et pas seulement en les bombardant, mais aussi en les privant de nourriture, en les privant d'eau, en les privant de médicaments, en les privant d'électricité. Un exemple particulièrement glauque, dans les hôpitaux, même quand ils ne sont pas bombardés, les bébés en couveuse vont mourir, a priori, faute d'électricité pour maintenir les couveuses en fonctionnement.
On fait une petite pause musicale ?
فلا تعيش على البلد جدد البلد حتلن البلد كسر طابوهات لتحسمس على البلد كشف على البلد شلح البلد سبرينج از كامينج فشمس البلد
ابو تريكا ممنوع اشرف طياد مجلود فقولي يا ولد
مين يكنس البلد
هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء
بلا 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 بلا
مسالم مثل الصوفي والبوذي لا توخذون انا مش مزوخي قصفوا مي بظرف شهر فك يوغا ما عاد يكفيني صمودي
تخيل الي جيوشي نفوذي تخيل صورتي على نقودي عباية كلها خيوطي مش عباية كوتشي كوتشي
طردنا نوال من البلد عرضنا وندر وومن بالبلد شايف النفاق يا ولد شو مفلس هالبلد
لا تقدس هالبلد عزر البلد شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد spring is coming فميل على البلد
بقلتوم راح والعقول تاح فقولي يا ولد
من يكنس البلد
هم مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء
Eh ben c'est vrai que mes camarades vous ont fait écouter la semaine dernière Chat Diamant de Source, c'était déjà pas tout jeune, mais alors là on vient de mettre Dame, ça c'est un peu le, on remonte aux antiquités du hip-hop palestinien. Voilà.
Mais on retourne à Gaza.
Mais on retourne, ah oui, tout ça parce qu'en vrai c'était une petite pause musicale à l'intérieur de ma demi-heure consacrée à Gaza ou je sais pas. Voilà, parce que je voulais maintenant remonter un petit peu en arrière, et tout ça en commençant par lire un texte qui est paru dans Haaretz il y a déjà plus d'une semaine, c'était mardi de la semaine dernière. Haaretz, c'est le grand journal de la gauche israélienne.
Qui en ce moment, si vous lisez l'anglais, faut vraiment le coup d'être lu.
Oui, tout à fait. On arrive aussi à trouver à droite, à gauche, des traductions, même en français, par exemple. J'en ai trouvé une tout à l'heure sur Middle East Eye. Le titre est anglais, mais il y avait quand même une traduction en français dedans. Ce texte est donc un texte écrit par Gideon Lévy, qui est, si j'ai bien compris, l'éditorialiste de Haaretz. Le texte s'appelle « Les Israéliens payent le prix fort pour l'oppression des Palestiniens dans la bande de Gaza ». Et rappelons donc qu'il a été écrit, qu'il est paru mardi de la semaine dernière, c'est-à-dire de 3 jours après l'attaque du Hamas. Les menaces de raser Gaza ne démontrent qu'une chose, nous n'avons rien appris. Alors encore une fois, nous, c'est les Israéliens, on parle bien d'un texte israélien. L'arrogance persiste, même si Israël paie à nouveau un prix élevé. Derrière tout cela se cache l'arrogance israélienne. L'idée que nous pouvons faire ce que nous voulons, que nous ne payerons jamais le prix et que nous ne serons pas punis pour cela. Nous continuerons sans être dérangés. Nous arrêterons, tuerons, harcèlerons, déposséderons et protégerons les colons s'activant à leur pogrom. Nous tirerons sur des gens innocents. Nous réduirons les yeux en bouillie. Nous leur écraserons le visage. Nous expulserons, nous confisquerons, nous volerons. Nous arracherons des gens à leur lit. Nous pratiquerons la purification ethnique. Et bien sûr, nous continuerons le siège incroyable de la bande de Gaza. Et tout ira bien. Nous construirons un terrifiant obstacle autour de Gaza. Le mur souterrain seul a coûté 3 milliards de shekels, c'est-à-dire 765 millions de dollars. Et nous serons en sécurité. Nous compterons sur les génies de l'unité de cyber-renseignement 8200 de l'armée et sur les agents du service de sécurité Shin Bet qui savent tout. Ils nous avertiront à temps. nous transférerons la moitié d'une armée à la frontière, de la frontière de Gaza à la frontière de Hawara, en Cisjordanie, uniquement pour protéger le député d'extrême droite Zvi Sukot et les colons. Ah, alors ça, c'est cette histoire, c'est pareil, s'il y en a qui ne se rappellent pas du détail de l'avant-dernier week-end, pourquoi est-ce que ça a été si facile pour le Hamas d'attaquer ? C'est que l'armée israélienne, qui d'habitude garde la frontière avec le Hamas, en l'occurrence, avait été déplacée pour aller protéger un député d'extrême droite qui allait faire le zouave plutôt en Cisjordanie. Donc je continue le texte. « Et tout ira bien à Hawara, comme au passage d'Eretz vers Gaza. » Il s'avère que même l'obstacle le plus sophistiqué et le plus cher du monde peut être franchi avec un vieux bulldozer fumant lorsque la motivation est grande. Cette barrière arrogante peut être franchie à vélo et en mobylette malgré les milliards qui y ont été investis et tous les experts célèbres et les entrepreneurs richissimes. Nous pensions que nous continuerions à descendre à Gaza, à accorder quelques miettes sous forme de dizaines de milliers de permis de travail en Israël, toujours sous conditions de bonne conduite, tout en les gardant en prison. Nous ferons la paix avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et les Palestiniens seront oubliés jusqu'à ce qu'ils soient effacés, comme le souhaitent les nouveaux Israéliens, comme le souhaitent de nombreux Israéliens. Nous continuerons à détenir des milliers de prisonniers politiques, parfois sans jugement. La plupart d'entre eux étant des nous continuerons à détenir des milliers de prisonniers palestiniens, parfois sans jugement, la plupart d'entre eux étant des prisonniers politiques. Et pas besoin de discuter de leur libération, même après des décennies de détention. Nous pensions que nous regretterions, que nous rejetterions avec arrogance toute tentative de solution diplomatique, simplement parce que nous ne voulons pas nous occuper de tout ça, et que tout continuerait ainsi pour toujours. Il a été prouvé une fois de plus que ce n'est pas ainsi que ça se passe. Quelques centaines de Palestiniens armés ont franchi la barrière et envahi Israël d'une manière qu'aucun Israélien n'aurait imaginé possible. Quelques centaines de personnes ont trouvé ont prouvé qu'il est impossible de maintenir 2 millions de personnes emprisonnées pour toujours sans payer un prix cruel. Tout comme le vieux bulldozer palestinien fumant a déchiré la barrière la plus intelligente du monde samedi, il a déchiré l'arrogance et l'autocomplaisance d'Israël. Et c'est aussi ainsi qu'il a déchiré l'idée qu'il suffit d'attaquer occasionnellement Gaza avec des drones suicides et de les vendre à la moitié du monde pour assurer la sécurité. Samedi, Israël a vu des images qu'il n'avait jamais vues auparavant, des véhicules palestiniens patrouillant dans ces villes, des cyclistes entrant par les portes de Gaza. Ces images sapent cette arrogance. Les Palestiniens de Gaza ont décidé qu'ils étaient prêts à payer n'importe quel prix pour un moment de liberté. Y a-t-il de l'espoir dans tout ça ? Non. Israël tirera-t-il les leçons de cette expérience ? Non. Samedi, on parlait déjà d'effacer des quartiers entiers de Gaza, d'occuper la bande de Gaza et de la punir comme elle n'a jamais été punie auparavant. Mais Israël n'a pas cessé de punir Gaza depuis 1948, pas un instant. Après 75 ans de mauvais traitements, le pire scénario imaginable l'attend à nouveau. Les menaces de raser Gaza ne démontrent qu'une chose, nous n'avons rien appris. L'arrogance persiste, même si Israël paie à nouveau un prix élevé. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou porte une très grande responsabilité dans ce qui s'est passé, et il doit en payer le prix. Mais cela n'a pas commencé avec lui, et cela ne s'arrêtera pas après son départ. Nous devons maintenant pleurer amèrement pour les victimes israéliennes, mais nous devrions aussi pleurer pour Gaza. Gaza, dont la plupart des habitants sont des réfugiés créés par Israël. Gaza, qui n'a jamais connu un seul jour de liberté. Parce que oui, la question qui semble passionner la classe politique et les médias en France, celle de savoir qui condamne quoi, qui choisit ces termes comment, et blabla le Hamas c'est des terroristes, ou blabla c'est pas des terroristes, et j'ai besoin de vous entendre dire que vous condamnez l'attaque du Hamas, ou est-ce qu'on parle de crimes de guerre, est-ce qu'on parle de crimes contre l'humanité, toutes ces questions me semblent finalement pas très passionnantes. Par contre, la question de comment on en est arrivé là, bon, moi, celle-là, en vrai, si on voulait la faire bien, ça serait quand même extrêmement long. Et celle de comment on pourrait imaginer que les choses aillent mieux ou comment on peut plus probablement penser que les choses vont aller plus mal. Ces questions m'ont l'air, en tout cas à moi, bien plus intéressantes que des histoires de condamnation morale ou d'afficher dans quel camp on est en choisissant de dire terroriste ou pas terroriste. Et évidemment, ce qui se passe, la logique même des choses, bah, c'est que tout va s'empirer. Parce que la pensée de droite, ma foi, domine le monde, domine Israël et domine chez les alliés d'Israël. Et la pensée de droite, c'est que quand on a des problèmes, le mieux à faire, c'est de taper plus fort sur ses ennemis, c'est d'écraser plus les gens qu'on domine, c'est de mettre les pauvres en prison, c'est la pensée de droite d'une manière générale. Hein. De tuer les rebelles, de couper le RSA, d'abolir l'aide médicale d'État, de mieux barbeler les frontières, enfin toutes ces choses-là. La pensée de droite se fout bien de la réalité et du fait que non, en fait, jamais, jamais dans l'histoire, la solution de la répression plus forte n'a apporté la tranquillité aux dominants. En tout cas, pas sur le long terme. Jamais ça marche pas. Aux dominants, aux riches, aux colons, aux occidentaux. Et comme on peut jamais tuer réellement tous les gens qu'on écrabouille, le problème c'est qu'il finit toujours par y avoir un moment où ces gens finissent par arriver à exploser et par vous exploser à la gueule. C'est ce qui s'est passé et le fait de mettre la cocotte minute encore plus sous pression ne présage a priori rien de bon. Alors je vais vous laisser avec ça, mais avant de vous laisser, j'ai quand même deux conseils de lecture de textes que j'ai trouvé extrêmement intéressants pour penser tout ça, disons, plus en profondeur. Alors un texte de Alain Brossa sur le site Ici et Ailleurs. Le texte s'appelle « Danser aux portes de l'enfer » et c'est un texte sur cette fameuse histoire des jeunes qui étaient allés faire une rave party dans le sud d'Israël, tout près de Gaza, et qui se sont quand même massivement fait tuer par le Hamas quand le Hamas a franchi les frontières. Alain Brossa est finalement pas tendre avec la démarche d'aller faire une rave party à côté de cette frontière barbelée. Mais surtout, bien plus intéressant que ça, il montre vraiment ce truc de cette fois-ci, les morts ont été les Occidentaux. Alors, en l'occurrence, les Occidentaux, c'est les Israéliens, mais ça, les Israéliens sont dans la tête de tout le monde, en tout cas, quel que soit le côté duquel on se place, les Israéliens sont des Occidentaux. C'est pour ça que l'Europe, les États-Unis les défendent aussi fort, autant coûte que coûte, et d'une manière parfois avec autant de malhonnêteté sur est-ce qu'un mort égale un mort, en réalité pas du tout, etc., etc. C'est bien parce que les Israéliens sont des Occidentaux. Et du coup, ce truc auquel Brossa s'attaque, le texte n'est pas très long, hein, et par rapport à si des gens sont inquiets parce que ce qu'il écrit n'est pas toujours hyper facile à comprendre, là en l'occurrence, si, c'est plutôt un texte facile. Ce à quoi il s'attaque, c'est vraiment ce truc de cette fois-ci, c'est l'effort, c'est l'Occident qui a perdu, qui s'est fait massacrer, qui s'est fait bousiller, et la question n'est pas une question morale. La question est vraiment la question de, il s'est passé un truc incroyable à ce moment-là. Incroyable et qui va marquer pour longtemps, pour le meilleur et pour le pire, et sans doute pas mal pour le pire, mais en tout cas, voilà. L'autre texte que je... Donc, ce texte, on l'a dit, s'appelle « Danser aux portes de l'enfer », et vous le trouvez sur le site « Ici et ailleurs ». L'autre texte que je voulais vous conseiller, c'est une note de lecture, une note qui est parue avant-hier sur le site lundi matin. En fait, il vaut même peut-être mieux commencer par ce texte, parce qu'il aide à mieux comprendre le texte dont j'ai parlé juste avant. Donc celui-ci s'appelle « Dieu n'existe pas, mais il nous a promis cette terre ». Et en fait, c'est la présentation, donc l'article que je vous conseille de lire est la présentation qui a été écrite il y a quelques jours, d'un livre dont la sortie lundi dernier était une sortie qui était prévue depuis très longtemps, donc bien avant les événements d'il y a 10 jours. Là. Un livre qui est une compilation de textes contre le sionisme écrits par des juifs et des juives, de la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant. Alors ça peut sembler hyper exotique ces derniers jours, mais oui, depuis plus de 100 ans et jusqu'à aujourd'hui, il y a des journalistes, il y a des philosophes, il y a des militants et des militantes juives qui s'opposent au projet sioniste à l'époque où c'était un projet, puis à la légitimité de l'État d'Israël, en tout cas à sa légitimité à représenter tous les juifs et les juives du monde. Et on se rend compte dans l'article et dans le bouquin, de manière bien plus détaillée, on se rend compte alors d'énormément de choses, mais entre autres de à quel point tout le projet sioniste, depuis les premiers écrits de Theodor Herzl, qui est celui qui a inventé l'idée de sionisme, comment tout ce projet est un projet colonial, un projet de l'Occident contre des sauvages barbares, en l'occurrence les Arabes de Palestine.
Et, ça, et en gros, on peut que encourager à lire quand même tout un tas de textes, des textes qui vont sûrement se confronter, se contredire et tout. Mais j'avoue, en tout cas, moi, c'est un peu là où j'en suis, c'est-à-dire lire plein de trucs qui vont pas être d'accord, qui vont.
C'est clair. Moi, je me suis beaucoup restreint pour ne parler que de deux là comme conseil de lecture à la fin de mon truc parce que j'avais envie de, j'en avais plutôt une quinzaine sous le coude, quoi.
Ouais. Et du coup, ça fait aussi des, je trouve, passer d'une idée à une autre et. Des fois, ne pas être d'accord avec soi-même, je trouve, sur ce genre de truc. Et ben, c'est l'heure, en tout cas, du camion info.
Radio Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit Canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées. Suivez la reporter des camions info du mercredi dans le camion info.
D'expulsion et la pression ne semble pas être totalement retombée. Rencontre avec Makis, l'un des travailleurs de Viomé, qui nous racontait en avril dernier l'histoire de la collectivisation de leur usine.
Je suis Makis, je suis travailleur de Viomé depuis longtemps, même avant la reprise de l'usine par les salariés. J'y travaillais déjà quand on avait un schéma classique avec un patron. Cette reprise a été possible parce qu'il y avait déjà une base syndicale solide, horizontale, avec des assemblées. Donc, quand on a été mis devant le fait accompli de la faillite de l'entreprise en 2011, on a pu en discuter dans ce cadre syndical et on a décidé collectivement de ne pas se laisser faire, d'abord en occupant l'usine pendant un an pour réclamer nos salaires. On a pris cette décision de continuer la production à 98%. Celui qui a voté non était membre du Parti communiste. Il y avait 40 personnes syndiquées et 70 au total dans l'usine, dont 65 à l'Assemblée, les 5 restants étant les dirigeants et les cadres. C'était en 2012, au début de la crise grecque, et il y avait une mesure pour les personnes qui perdaient leur travail, une aide de 14 000 euros pour démarrer une nouvelle activité. Et on comptait sur cette somme-là, multipliée par les 65 que l'on était, pour continuer la production. On a été reçus au ministère du Travail et on a fait cette proposition. Et l'assistant qui nous a reçus a dit que c'était la meilleure idée qu'il n'ait jamais entendue. Mais bien sûr, ce n'est jamais arrivé et on n'a jamais reçu l'argent. Dès que l'on a compris qu'il ne fallait pas compter sur cet argent, une partie des salariés, plutôt dans la partie administrative, a quitté le projet. Et certains sont même devenus carrément hostiles aux efforts des autres. Mais le reste continue à vouloir maintenir la production par n'importe quel moyen. La première idée était de continuer à produire ce qu'on avait toujours fait, à savoir des produits chimiques pour la construction, des cols notamment. Mais ça ne nous a pas paru faisable à cause de l'accès aux ressources. Au même moment, un groupe de solidarité se constitue autour de Viomé, et au fil des discussions, la décision est prise de produire plutôt des produits d'hygiène, qui sont aussi plus faciles à vendre en direct. Le genre de produit que n'a pas les moyens de se payer une famille grecque normalement, des savons écologiques de qualité, de la lessive. On a cherché les moyens de distribuer cette production à travers des canaux de solidarité par nos propres moyens. Et comme on craignait d'être attaqué, légalement ou par des intrusions policières, on tentait de sécuriser notre travail et la production en proposant via d'autres rencontres avec le ministère du Travail de créer une entreprise ou une association en règle.
This is Viomé.
Logo. Σε Viomé, Occupy Resistance Production. This and Sob. This is Esomb. This is Daphne. Κρήταμο. This is Λεβάντα, Λεβάντε. This is herbal.
Εκεί μέσα αυτή τη διαδικασία πήγαμε στο Λουκ να παράξουμε τα νέα προϊόντα.
On a donc continué la production en réfléchissant en même temps à la forme légale qu'on pouvait prendre, comme la forme coopérative sociale KINSEP, l'équivalent d'une SCOP en Grèce. Dans cette structure juridique, il n'y a pas de propriétaire. Chaque salarié a une part de l'entreprise, mais personne n'en retire de bénéfices financiers. Quand on a décidé de choisir ce modèle, ce cadre légal pour éviter les menaces d'attaque, ça n'a pas satisfait tout le monde et une partie des salariés ont quitté le projet en laissant entendre qu'ils auraient préféré se passer de cadre légal. Mais c'est peut-être certainement parce qu'ils commençaient à se fatiguer après quelques années de cette histoire. On a écrit une constitution de l'entreprise pour aller plus loin que le statut légal de KINSEP, en précisant que tous les travailleurs sont propriétaires et tous les propriétaires sont des travailleurs et que tout ce que l'usine possède, y compris les machines, sont collectivisés et indivisibles. De nouvelles personnes sont arrivées, y compris à Athènes, où il y a une boutique de Viomé, dont des personnes migrantes qui ont beaucoup de difficultés à trouver du travail en Grèce. Aujourd'hui, on est 13 salariés au total, mais 25 membres à décider en assemblée. C'est juste qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Il y a aussi des assemblées parallèles avec un comité de soutien. On a toujours voulu, à travers ce processus, améliorer la production. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'est amélioré nous-mêmes à travers ce processus collectif de 10 ans.
Μάθαμε να λειτουργούμε πολύ διαφορετικά μέσα αυτή τη διαδικασία που δεν είναι κάτι που το ψάχνεις, είναι κάτι που συμβαίνει λόγω του ότι μπλέξει μια τέτοια.
On a fait beaucoup de sacrifices au début en travaillant pour rien, puis pour un salaire de 10 euros par jour, et aujourd'hui on a un salaire, le même pour tous, un peu au-dessus du salaire minimum. Mais notre but est de pouvoir garantir des salaires plus élevés pour prouver que cette forme coopérative est bien meilleure que le système capitaliste. Concernant les conditions de travail, on essaye de faire mieux que le peu que garantit le Code du travail en Grèce. Par exemple, on a 2 semaines par an de congé maladie payés sans avoir besoin du système bureaucratique des notes de médecin où certains jours restent impayés. On a séparé l'année en 3 périodes en examinant les bénéfices pour se permettre des primes 3 fois par an. Pour être sûr que quand l'entreprise fait plus de bénéfices, tout le monde gagne plus. Même si beaucoup de gouvernements, dont celui de Syriza, mais aussi celui de droite de la Nouvelle Démocratie, ont promis que la situation des travailleurs de Viomé serait légale et soutenue, aucun n'a tenu ses promesses. Aujourd'hui, les installations ont été vendues pour payer les dettes suite à la liquidation de l'entreprise. Ça a créé pas mal de problèmes. Par exemple, l'entrée de l'usine a été vendue et on doit la franchir tous les jours pour venir travailler. Jusqu'à présent, on avait réussi à bloquer cette vente en empêchant les acheteurs potentiels de se rendre au tribunal au moment de la vente aux enchères. Mais cette fois, elle était organisée sur Internet. Dans les bâtiments qui n'ont pas été vendus, on a installé la majorité de notre production pour la sécuriser. Mais cette usine n'abrite pas que de la production. Les lieux ont aussi été utilisés comme des lieux culturels, des événements de solidarité. Il y a un centre de soins solidaire. On stocke aussi des collectes pour envoyer à Lesbos aux réfugiés. Donc on a décidé de maintenir notre présence, y compris dans les bâtiments vendus, de les défendre, parce que ces bâtiments appartiennent à la société tout entière et ce sont aussi des lieux de mémoire de la vie industrielle à Thessalonique.
Here, building, new production. This is MVOME.
Δεν θαραγωνίζει τόσο πολύ. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να υπερασπιστείς τόσο το χώρο παραγωγής, αλλά όσο και τον υπόλοιπο χώρο.
Pour l'instant, l'ambiance n'est pas très agressive parce que le propriétaire ne se montre pas encore. Mais on attend de voir ce qui va se passer et s'il se montre, on sera prêt à discuter. Après le choc de la vente en février 2023, on a lancé un appel à la solidarité parce que c'est un lieu qui appartient à toute la société, pas seulement aux travailleurs. C'est un lieu de sociabilité où il se passe des choses plus larges que du travail. Si les gens veulent défendre ça, il y a des assemblées qui s'organisent pour savoir comment défendre Viomé, ce que l'on peut faire en cas d'intrusion. Les mesures préventives sont aussi réfléchies, comme par exemple faire en sorte qu'il se passe de plus en plus de choses ici pour montrer qu'on n'est pas seul.
Το συνδιοργανώνουμε μαζί. Δεν είναι δηλαδή ότι αποφασίζουν κάτι εργαζόμενοι και είναι υποχρεωμένοι άλλοι να το κάνουν.
L'exemple de Viomé n'a pas eu l'effet qu'il aurait pu avoir d'impulsion pour plus de coopératives de production. Il y a d'autres coopératives, surtout dans les services, mais aucune en usine. Il aurait dû en avoir des milliers de Viomé, surtout avec la crise grecque et après toutes ces liquidations d'entreprises pour faire prendre conscience de la violence du capitalisme. Mais la crise n'est pas derrière nous et encore récemment, le gouvernement a annoncé des changements dans le code du travail. Ce modèle est une alternative qui n'aura pas d'autre choix que de se développer et va finalement devenir la seule solution de la classe ouvrière et même au-delà dans les universités. Autrement, on n'a qu'à seulement baisser la tête et accepter ce que le gouvernement veut faire de nous. Il y a eu plusieurs situations où ils étaient presque sur le point de former une coopérative. Un exemple, celui de Katselis qui fait du pain. L'entreprise était en faillite et PAME, qui est le syndicat du Parti communiste en Grèce, a mis en garde les travailleurs pour que ça ne devienne pas un autre Viomé. Ils nous considèrent, et c'est du mépris dans leur bouche, comme des anarchistes. On est prêt à défendre cet espace, y compris physiquement, ça va dépendre du comportement du propriétaire. Et c'est un travail quotidien, il ne suffit pas de lutter une seule fois, et c'est au moment où on apparaîtra plus faible que les attaques surviendront. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que la révolution ne s'arrête jamais.
Can you info? Du mercredi.
Est-ce que tu me mets ma petite musique ou pas? Alors, je pense que pourquoi il est intéressant aussi de parler des Kurdes après tout ce qui se passe en Palestine, c'est parce que les liens entre les Kurdes et les Palestiniens ne sont pas seulement dus à leur situation de peuple sans État opprimé et colonisé, leurs liens sont aussi historiques. Puisqu'il faut rappeler que le PKK, mouvement le Parti des Travailleurs du Kurdistan, mouvement armé le plus emblématique de la lutte kurde et qui est encore actif aujourd'hui, a été au début des années 80 entraîné et formé par la résistance palestinienne au Liban. Et les premiers martyrs du PKK sont tombés au Liban, aux côtés de cette même résistance palestinienne. Et du coup, je vais faire un petit résumé de la déclaration du KJK à propos du bombardement de l'hôpital à Gaza. Alors le KJK, c'est l'organisation fêtière du mouvement kurde, c'est-à-dire qu'il y a plein d'organisations dans le mouvement kurde, armées ou non, dans toutes les régions différentes du Kurdistan, et cette organisation fait un petit peu le lien entre tous ces mouvements et fait la communication quand il y a quelque chose de très important et général. Donc le KJK a aujourd'hui fait part de sa profonde tristesse suite au bombardement de l'hôpital de Gaza. Il réitère son soutien et sa solidarité avec le peuple palestinien et avec son combat pour sa juste cause. Le KJK accuse les puissances régionales d'instrumentaliser la cause palestinienne pour leurs propres enjeux de politique intérieure, la Turquie étant une de ces puissances dont l'exemple est le plus emblématique. Alors que celle-ci exprime publiquement son soutien au peuple palestinien, elle continue ses relations diplomatiques avec l'État d'Israël et continue de massacrer le peuple kurde dont la situation est par de nombreux aspects similaire à celle du peuple palestinien. Le KJK demande à tous les Kurdes d'exprimer leur solidarité totale avec le peuple palestinien durement touché et rappelle que la solution aux violences qui secouent le Proche-Orient ne viendra pas des États-nations, mais bien des peuples en lutte. D'ailleurs, au Rojava, le 14 octobre, les États-Unis ont renforcé leur système de défense dans le nord de la Syrie, craignant une résurgence de l'organisation État islamique. En effet, après 2 semaines de bombardement par l'armée turque sur le Rojava, les forces arabo-kurdes ne sont plus en capacité de constituer un rempart contre Daesh, puisque toutes leurs forces sont employées à se défendre contre les attaques de la Turquie. Je voulais aussi reparler, toujours en Syrie, ce soir, d'Evrin Khalaf, puisque ici à Lyon, dans le 7e, à côté de l'ancien garage Citroën, une petite place porte désormais son nom. Donc Evrin Khalaf, femme politique kurde de Syrie, du parti du futur de la Syrie, a été torturée, mutilée, puis assassinée il y a exactement 3 ans par une milice pro-turque. Il se trouve que le mouvement kurde demande actuellement, insiste auprès de la Cour pénale internationale d'agir, puisque l'un des assassins, clairement identifié, chef de cette milice, vit actuellement en Turquie, et il vient d'obtenir à l'université de Mardin, dans l'est du pays, son diplôme de fin d'études en sciences politiques et relations internationales. En Turquie, alors que le parti de la gauche verte tenait son congrès et soulignait la similarité entre le Rojava et la Palestine, au même moment, le ministre turc des Affaires étrangères tenait une conférence de presse. Alors que son pays colonise une grande partie du Kurdistan, le nord de Chypre et de la Syrie, celui-ci a expliqué que les territoires palestiniens occupés n'étaient pas des colonies, mais tout simplement du vol. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour essayer de dire que nous, nos colonies sont des colonies justifiées et qu'en Palestine c'est pas justifié. Et du coup je reviens rapidement sur le congrès du parti de la gauche verte qui a eu lieu à la fin de la semaine dernière et qui a changé son nom de parti et qui ne s'appellera plus la gauche verte mais qui s'appellera désormais le parti pour l'égalité des peuples et la démocratie. Et à cette occasion, 15 européennes et européens qui avaient fait le voyage pour assister au congrès se sont fait arrêter, placés en rétention et expulsé. La raison de cette expulsion, c'est tout simplement d'avoir participé à une manifestation la veille pour la paix et qui dénonçait les bombardements sur le Rojava. Étonnamment, les Européennes et Européens expulsés accusent la police turque de vol et de violence. Alors s'il semble que ce groupe d'Européennes et d'Européens, et là je me fie que avec les noms que j'ai lus, donc c'est pas du tout précis. Donc s'il semble qu'ils étaient majoritairement italiennes ou italiens, avec un peu d'espagnol et d'allemand, même s'il n'y avait pas de français, on peut quand même cependant en conclure avec une note, sur une note positive, c'est que l'internationalisme européen n'a pas dit son dernier mot.
Pardon. On peut finir sur une note positive et rappeler la victoire du groupe Les Gilets Noirs, qui est un collectif. Alors je sais pas s'il y a que des sans-papiers dedans, mais en tout cas là, ça c'était pour cette raison-là. Donc c'était à Paris, c'était des gens qui étaient embauchés par des, on dit pas des succursales, mais vous voyez des sous-traitants. Merci. Et qui pour beaucoup n'avaient pas de papiers et qui étaient embauchés notamment sur les chantiers pour les JO de Paris et ils ont décidé du coup de faire grève, de stopper, de bloquer les chantiers et là comme on sent que ça touche quand même un pilier de l'économie et des chantiers à des sommes pas possibles, assez vite ils ont obtenu gain de cause et des régularisations et tout, enfin bref, tout un tas de trucs dont j'ai pas les détails ici, mais en tout cas voilà, c'est ça a fait une belle histoire de lutte et une belle victoire pour eux. Voilà.
Alors même que si vous nous écoutez d'Amérique, de tous les pays, de gens qui ont de la thune et qui veulent voir des Jeux Olympiques, sachez-le, en France, il y a des tonnes de punaises de lit dégueulasses. En plus, il y a des attentats et en plus, il y a des émeutes urbaines. Franchement, laissez tomber.
Ne venez pas.
Est-ce qu'on peut faire une petite annonce aussi pour dire que...
T'as 10 minutes.
J'ai 10 minutes, oui, bah ça va me prendre qu'une de ces 10 minutes, je pense. Ce samedi, à 14h, de 14h à 18h, pour être plus précis, à l'ECG, il y a une grande braderie, puisqu'on rappelle que ce squat, du coup, est menacé d'expulsion. Je pense qu'ils veulent peut-être se débarrasser un peu d'affaires. Et alors, apparemment, il y aura de l'électronique, des vêtements, de la vaisselle, des livres, et plein de belles choses à prix libre. Et l'argent récolté ira à la caisse de l'ECG. Et il y aura du... Pour ceux qui ont soif, il y aura du thé, du café et des jus offerts.
Bon, mais nous, on va terminer. Mais
ah, je vais donner l'adresse, pardon. Excusez-moi. Ah ouais, de... Oui, c'est au 45 rue Béchevelin, dans le 7e, quand même, parce que pour y aller, c'est mieux, quand on a l'adresse.
Et puis nous, on vous retrouve dans 10 minutes. Enfin, peut-être on sera un peu en retard, parce qu'il faut qu'on mette les infos en ligne, mais on vous retrouve dans une bonne dizaine de minutes, place des Terreaux, pour cette veillée de soutien à la population de Gaza. Suite au crime de guerre commis par Israël, pardon, j'avais du mal à lire parce que l'affiche est faite de manière...
Pour les victimes palestiniennes.
Voilà. Allez, et ben, bonne soirée et à la semaine prochaine.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.